Alors ce soir, on parle belgitude avec Alain Platel, chorégraphe flamand, sans tabou, et Claude Semal, l'homme de scène francophone qui n'a pas la langue dans sa poche. À ce soir, à partir de 21h.
Vendredi 19 novembre, de 22h à minuit, sur France Inter, concert du Prix Constantin, présenté par Valli. Le jury, présidé par Marc Lavoine, a consacré Indy Zara, lauréate du Prix Constantin 2010. Le Prix Constantin, en partenariat avec Deezer. Renseignements, franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, vous retrouvez Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Merci, là-bas si j'y suis, de nous avoir fait réécouter Daniel Ben Saïd, qui nous manque quand même vachement, vachement son nom. Voilà, merci encore pour cette émission.
Trotsky dit qu'il faut humaniser le capitalisme. Alors, comme dirait Franck Lepage, humaniser le capitalisme, c'est comme un tigre qui court vers toi, et toi, tu lui dis « Couchez, Kiki !»
Un petit clin d'œil suite à la soirée avec notre président de la République. Après Canal+, France 2 présente ses guignols en première partie de soirée. Bravo à la chaîne pour la réussite de ses marionnettes, beaucoup plus réalistes que sur Canal. Allez, à ciao.
Ah, il est terrible ce Sarkozy. À une question que lui posait Michel Denisot sur sa détermination, il répond « Ma détermination n'a rien changé ». Au lieu de répondre « Ma détermination est inchangée ». Ce qui est terrible, c'est qu'en disant « Sa détermination n'a rien changé », c'est-à-dire même en faisant un énorme lapsus, il arrive à mentir quand même. Ah bon, sa détermination n'a rien changé? Les Français sont absolument plus pauvres. On nous supprime nos hôpitaux, nos services publics, nos postes, nos écoles. Et sa détermination n'a rien changé. Même en lapsusant, il ment.
Incorrigible, Daniel. Tu convoques pour nous des économistes chevronnés de l'Hexagone alors qu'il serait beaucoup plus simple et rassurant d'imaginer Sarkozy et Strauss-Kahn marchant main dans la main pour sauver la planète. C'est René de Montpellier.
Avant, il y a eu l'affaire du sang contaminé, puis celle de la vache folle, mais c'était dans un autre siècle. Et plus récemment, l'hécatombe annoncée de la grippe H1N1. Les quelques survivants qui en ont réchappé grâce à Mme Bachelot ont malheureusement, pour ceux d'entre eux qui souffrent de diabète, eu droit à un médicament qui n'a fait qu'aggraver leur cas. Il a un nom terrible, ce soi-disant médicament, le Mediator. On croirait le titre d'un de ces films hyper-violents du style Terminator 1, Terminator 2, etc., etc. Mais un mal beaucoup plus sournois et pernicieux ronge depuis 3 ans et demi l'ensemble de la population française. C'est le Sarkoziator. C'est une espèce de purge au goût acide et indigeste, et sans rémission pour celles et ceux qui la consomment de force quotidiennement. N'y tenant plus, j'ai donc interrogé l'ASM, l'Agence de sécurité des médicaments, qui m'a hélas confirmé qu'on en avait encore pour au moins 18 mois, après quoi des millions de malades gravement atteints comme moi pourront mettre fin en 2012 au quinquennat, j'ai bien dit quinquennat, du responsable de ce mal virulent. Alors malgré la douleur, tenons bon jusque-là.
Très mauvais réseau aujourd'hui au nord qui joue où nous sommes toujours. Aujourd'hui, on retrouve Daniel Ben Saïd, deuxième partie de cet entretien sur Karl Marx. Marx, mode d'emploi. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Philippe, je suis gérant d'une petite société de transport en moins de 3 tonnes 5. J'étais tout content d'apprendre que la taxe professionnelle était terminée. Je me suis dit, je vais pouvoir investir sans problème. Et ben non, elle n'existe plus, la taxe professionnelle. Ah non, plus du tout. Ah, on n'a pas de chance, elle a été transformée en cotisation foncière des entreprises et elle a augmenté pour ma part de 16%. Heureusement que je n'ai pas voulu investir pour redynamiser mon entreprise, parce que si j'avais investi, ben il aurait fallu que je trouve de l'argent pour payer cette taxe qui pour moi n'existait plus. Au revoir.
Et voici les deux dernières newsletters des Jeux Olympiques en direct du pays du Reblochon. Savez-vous que la puissance du Comité international olympique à Lausanne est telle que la France s'engage à ne pas appliquer son droit du travail pendant les Jeux Olympiques. T'y embauches comme tu veux, t'y payes pas, personne ne te dit quelque chose. En plus, tous les produits dérivés sont libres de taxes. Plus de TVA, comme aux îles Caïmans. Bon, nous, c'est des vaches, mais la Haute-Savoie devient une free zone pour les Jeux Olympiques. Alors, pour ceux qui ne veulent plus de ce carnaval à la gloriole, venez à la manifestation samedi 20 novembre à Annecy, 14h. Et puis pour ceux qui en ont marre de la fête aux égaux, rendez-vous sur Internet avec la pétition du comité anti-olympique d'Annecy. Merci, merci.
Oui, bonjour, ici Corinne du Repère, de la Bassée j'y suis avec de gros microbes normands. Je vous appelle parce que ce soir, jeudi 18 novembre, nous avons un repère, le repère mensuel habituel du troisième jeudi de chaque mois, avec un thème qui concerne l'éco-construction à partir de 20h30. Donc nous aurons au moins deux intervenants, si ce n'est quelques invités surprises, qui font partie de l'ARP, donc l'Agence régionale pour l'écologie ou le développement de l'écologie et l'économie solidaire, qui vont intervenir parce que nous avons envie de savoir comment, un peu partout en France, on peut envisager de construire ou de rénover nos logements tout en préservant tout ce qui nous entoure. Jeudi 18 novembre à 20h30, ça a lieu au News, au 15 boulevard Leroy, à Caen. Je vous remercie, à très bientôt.
Bonjour, Christian de Saint-Dié. Après Épinal et Neuchâtel dans les Vosges, Bernard Friot sera à Saint-Dié le 22 novembre, salle Carbonard à 20h30, pour animer un débat citoyen sur les retraites, sur invitation du collectif Retraite Locale. Et nous pensons que c'est une occasion à saisir pour les citoyens et citoyennes du secteur, pour justement confronter les thèses de Bernard Friot aux avancées du mouvement social actuel. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Daniel Ben Saïd. Marx, mode d'emploi.
Flight number 2, arriving from New York.
Jésus revient parmi les siens, vous vous souvenez de la chanson? Bah, cette fois, c'est Marx qui revient, Karl Marx revient. Et c'est la mode, Karl est à la mode, mais attention, gare à la récup, les embaumeurs vont nous le rendre tout à fait inoffensif. Lui qui voulait semer des dragons, Marx, sa vie, son œuvre et sa barbe, vu par Daniel Ben Saïd. Marx, mode d'emploi, c'est aux éditions Zone, avec des dessins souvent très poilants de Charbes. Alors, si on parle aussi allègrement de ce sujet, Marx, le communisme, etc., c'est quand même qu'on est en train de vivre une crise qui pose beaucoup de questions.
Bah oui, alors d'abord, il y a des choses dans le vocabulaire qui seraient assez drôles à souligner, à réfléchir. Par exemple, le mot libéralisme s'est évaporé. Plus grand monde se proclame libéral. Donc, le débat est devenu... C'est d'ailleurs récurrent dans les discours de Sarkozy, le discours de Toulon sur refonder le capitalisme. Et donc, il y a toute aujourd'hui une mobilisation pour sauver le soldat capital. Et puis, il y a le diagnostic de Marx, c'est que le soldat, non seulement il ne faut pas le sauver, mais il faut l'enterrer. En tout cas, il faut renverser le système. Un des points forts de Marx, outre sa compréhension de la mondialisation qui en fait l'actualité, c'est la compréhension des crises. Le capitalisme porte en lui la crise. Alors pendant toute une période, on a cru qu'avec la gestion keynésienne, les manipulations monétaires, on avait fini avec les crises. Bon. Et là, on a une crise qui est peut-être encore plus grave, ça sera un autre sujet, que celle qui sert jusqu'à présent de référence, qui est la crise de 29-38. Bon. Donc, la compréhension des crises, c'est quelque chose d'important. Hein. Je crois qu'il donne des clés évidentes. Même en lisant Marx superficiellement, on n'aurait pas pu raconter qu'on pouvait distribuer des dividendes de 15% pour un taux de croissance de 4%. Bon, là, on est dans le mythe de l'argent dont parlait le monseigneur de Canterbury, de faire croire que les choses ont une puissance par elles-mêmes, etc. Non, bon, ça... Et le troisième élément, la lutte des classes... comme le disaient les sociologues Beau et Pialoux dans leur étude sur Peugeot, sur le bassin d'emploi de Montbéliard, bah, la classe ouvrière n'avait pas disparu, elle était devenue invisible. Alors là, elle est redevenue visible. La lutte des classes, il n'y a pas besoin de grands discours. Hein. Il n'y a qu'à prendre les parachutes dorés, les lots parachutes, les retraites chapeaux, etc. Bon, le profit, aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret et de très visible. Et de l'autre côté, eh ben, ce prolétariat qui était censé avoir disparu, bon, il suffit de voir les coups de colère. Il y a dans presque toutes les villes une petite boîte de 80, 200 salariés qui ferment là, mais dans une petite ville non universitaire, ça a des conséquences en cascade sur le logement, sur le petit commerce, etc.
Ça fait 20 ans qu'on nous explique. La lutte de classe s'est dépassée. Au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite, la gauche capitaliste ont ouvert la voie aux fascistes. Alors ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Qui peut rêver du RMI, même si certains estiment que c'est bien trop, que ça suffit. Que celui qui n'a pas d'emploi n'a qu'à se contenter de ça.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La gauche, la droite avaient promis, tu les as cru, ils t'ont trahi, maillon faible qu'on élimine. Au bistrot, tu rêves de vengeance, tu bois contre l'indifférence.
Ne te trompe pas de colère, et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Quand tous les jours à la télé, les patrons se pavanent et friment, disant qu'il faut se résigner. Car à la bourse, c'est la crise, faut sacrifier pour l'entreprise.
Ne te trompe pas de colère, et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Quand même avec des heures de fête, la grève se transforme en défaite et la précarité te guette.
Mais quand tu veux manifester, les flics protègent les beaux quartiers.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
On continue avec Daniel Ben Saïd sur Marx, mode d'emploi chez Zone. Avec des dessins souvent très, très, très poilants de Charb. Et évidemment, on en vient au Capital de Marx. Et là, je voudrais lire quelques lignes. Au commencement était la marchandise. Sous son apparente banalité, la moindre table, la moindre montre, la moindre assiette, comme la noix de la célèbre chanson de Charles Trenet, contient en tant que marchandise tout un monde. Il suffit de l'ouvrir pour qu'en sorte, comme les foulards et lapins d'un chapeau d'illusionniste, une série de catégories qui vont par deux, la valeur d'usage et la valeur d'échange, le travail concret et le travail abstrait, le capital constant et le capital variable, le capital fixe et le capital circulant. Tout un monde schizophrène, perpétuellement dédoublé entre quantité et qualité, public et privé, homme et citoyen. Avec la définition inaugurale de la richesse comme un énorme entassement de marchandises, Marx tient le bon bout pour percer le grand mystère moderne qui est censé faire de l'argent. Voilà un extrait qui, pour introduire en quelques minutes, l'explication des trois tomes du Capital de Marx. Mais vous présentez ça bien en disant non, 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 pas d'inquiétude, c'est un polar finalement.
C'est un grand polar, ouais.
Oui.
Mais bon, c'est pas une blague, hein. Bon, je faisais ça à mes étudiants, évidemment, c'est un artifice pédagogique, mais un artifice sérieux. Parce que si on regarde la période de rédaction du Capital, Elle est exactement contemporaine de la naissance du roman policier moderne. Un peu postérieure à l'histoire des 30 de Balzac, mais d'Edgar Poe, de Wilkie Collins, de quelques années antérieures à Conan Doyle. Parce que le roman policier moderne est un genre littéraire qui traite justement du monde urbain. Bon, les crimes passionnels à la campagne, il n'y a pas beaucoup de mystères, les liens sont directs. Bon, là, au contraire, justement, l'argent, comme il circule, c'est quelque chose dont on perd la trace, dont on va suivre les déplacements, les fameuses valises habillées de dollars ou de lingots d'or qui circulent, qui passent de main en main, qui se perdent dans les brumes des villes, dans le Grand Londres, etc. Et avec Marx, on est exactement dans ce récit-là. C'est-à-dire, il y a un mystère. Bon, d'abord, d'où vient la richesse ? Comment se fait-il que, au lieu d'avoir une société en équilibre, on a une société qui accumule de la richesse ? Donc, il y a un crime originel et un lieu du crime. Et oui, je l'écris comme ça, je ne vais pas me citer, c'est prétentieux. Mais moi, je lis les premières pages du Capital où Marx décrit, pour répondre à cette question, mais d'où vient le fait que de la richesse crée de la richesse et pas simplement se reproduit, bah dit, on va aller sur les lieux du crime, on va descendre sur les talons du propriétaire, de l'homme aux écus, de l'homme qui a le capital, avec qui a derrière lui le prolétaire avec sa mine résignée, charbon à dessiner, etc., qui marche derrière, qui sait qu'il va là pour être tanné, et là, sous les sous-sols du marché, parce qu'à la surface du marché, on voit rien, on échange les choses, mais quand on descend, il y a une descente aux enfers, il y a du Dante aussi là-dedans, on voit les instruments de torture, les machines, etc., c'est du gothique. Bon, et là, il y a un crime a été commis, c'est-à-dire que les mots de Marx qui descend derrière le patron pour être tanné, et il a été tanné au sens propre, c'est-à-dire qu'on l'a écorché, on lui a piqué sa peau, son sang, ses muscles. Et c'est ça qui fait de la richesse. Donc, il y a un crime. Ça, c'est le livre 1 du Capital, c'est le lieu du crime.
Mais il reçoit un salaire en échange de son travail.
Ah oui, mais le salaire, alors ça, c'est la grande mystification, c'est que le salaire correspond au travail. Alors que Marx dit non, le salaire paie, en fait, un temps de travail, une force de travail. Et la clé du mystère, c'est que parmi toutes les marchandises, il y a cette marchandise miraculeuse qui est le salarié, qui est l'homme salarié, qui a la capacité prodigieuse de pouvoir fonctionner plus longtemps que le temps nécessaire à sa propre production. Donc, le patron va payer ce qui est nécessaire à la reproduction du travailleur et de sa famille, mais il y a un temps de travail qui est empoché par le patron. Donc, le salaire a l'apparence d'un échange équitable, mais en réalité, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Donc, il y a une part de travail non payée, alors que Marx, parfois, et Proudhon, d'ailleurs, appelle le définissent comme du vol, enfin c'est un vol légal puisque le salariat est légal, mais il y a une part de temps de travail non payé qui est donc du vol.
Et ça c'est la plus-value.
C'est la plus-value dans le jargon, oui.
Il y a des principes de base qu'on ne devrait jamais oublier et sur lesquels tout notre système repose. Chanson du capitalisme. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un gros citron. C'est le propre du grand homme de pressurer les petits citrons. Le citron du petit homme fait la joie du gros citron. C'est pourquoi le petit homme pleure et jette comme un poltron. Bon Dieu soit fait. Pitié pour les faibles, cogne dessus et tape-lui sur le citron. Si le petit homme prétend faire des manières, ce n'est pas ton affaire, tu n'es pas son père. Mon Dieu, sois ferme, pas de pitié pour les faibles. Mets-lui un bon coup sur la gueule, oui, un bon coup sur la gueule.
Alors, comment on va passer de la plus-value au profit ?
Alors, le problème après, c'est que au livre du Capital, il y a le blanchiment. La plus-value est extraite dans la production. C'est le temps qui est extorqué au travailleur pour lequel il travaille gratuitement, pour le dire simplement, pour le patron. Puis après, ça passe dans la circulation. Là, il faut que la marchandise soit vendue, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir produite. Si elle n'est pas vendue, le capitaliste aura dépensé son capital pour rien et le travailleur son travail pour rien. Donc la boîte fermera. Voilà. C'est d'ailleurs un des mécanismes des crises. Non, donc il faut que la marchandise entre sur le marché, qu'elle trouve preneur, etc. Et là, on a la circulation dans laquelle se perd, y compris l'origine, et se perd d'autant plus que apparaît, grâce à l'autonomie de l'argent, un circuit qui est le fameux circuit du crédit où l'argent semble faire de l'argent. Vous, si vous êtes, vous déposez de l'argent en banque, ce qui vous intéresse, c'est savoir s'il aura 3% ou aujourd'hui 1,75% pour le livret A. Bon, mais le fait que cet argent, entre-temps, soit passé d'un investissement et servi à acheter des machines, à payer des salaires, à acheter des matières premières, ça, le petit rentier ou le petit actionnaire, il s'en fout. Donc, il a l'illusion que l'argent peut faire de l'argent. Il y a ce pouvoir miraculeux, religieux, je dis, c'est plus mystérieux que le mystère de la multiplication des pains, mais c'est exactement une vision religieuse du monde. Alors qu'il faut que l'argent tourne et qu'il revienne, donc, après la vente, sous sa forme capitale. Bon, là, il s'est accumulé et il s'est transformé en profit. En gros, la plus-value, ce qui est extrait du travail travailleur par l'entrepreneur, l'employeur, etc., au niveau de la production, ce n'est encore qu'un profit virtuel. C'est du profit en puissance. Pour devenir un profit réel, sonnant et trébuchant, un profit accumulé, il faut que le cycle ait été bouclé, que la marchandise ait été vendue. Et c'est ce qui peut ne pas arriver dans les crises. C'est-à-dire que, vous avez cité le texte où je dis qu'en gros, le système capitaliste est schizophrène, c'est que la différence des anciennes sociétés de troc où on produisait ce dont on avait besoin d'échanger pour remplir ses besoins, il y avait en gros un équilibre immédiat entre ce qu'on produit, ce qu'on échange et ce qu'on reçoit. Tandis que la société capitaliste, les capitalistes produisent sans savoir ce qui va être consommé. La production et la consommation ne sont pas directement harmonisées. C'est que le marché qui dit, après coup, si ce qui a été produit a été utile ou pas, si ça a été produit à des conditions de rentabilité conformes au marché ou pas. Et comme le marché arbitre après coup, eh ben, si on a produit trop de bagnoles et trop de logements, la crise actuelle, le marché sanctionne. Alors entendons-nous, trop de bagnoles et trop de logements, non pas par rapport aux besoins, mais par rapport au pouvoir d'achat.
Oui, là on vit cette crise actuellement, hein, avec ce mot que je mets entre guillemets, mais Marx, dans le Capital, décrit le système de la crise, oui. Tout comme Zola, dans l'argent, je crois, hein, décrit la crise.
Zola le décrit, il ne comprend pas. Il dit c'est totalement mystérieux.
Oui, c'est ça.
Marx explique quand même pourquoi il y a une logique de crise.
Oui. Mais on voit que le système décrit par Marx, c'est la crise que nous vivons aujourd'hui.
Absolument. Alors il y a un texte qui est publié en français sous le titre « Les théories sur la plus-value », justement, qui est un peu, certains considèrent, c'est le quatrième livre du Capital, dans lequel Marx présente les matériaux qu'il a utilisés, etc. Et là-dedans, il y a un texte de polémique avec les économistes classiques de son époque sur les crises, qui est encore plus concentré et plus parlant, où il explique justement cette schizophrénie, cette dissociation, le fait que production et consommation, dit-il, sont séparées dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on produit n'est pas consommé instantanément, donc on ne sait pas si ça sera consommé et acheté un jour. Et en plus, ce qu'on produit n'est pas consommé là où c'est produit, mais voyage de plus en plus loin, donc vers des acheteurs incertains, improbables, hypothétiques, etc. Et le fait que distribution, circulation, consommation, on peut l'appeler comme on veut, et production sont dissociés, contient en germe la possibilité de la crise.
Au départ, il y a ces fameux subprimes, des emprunts accordés aux petits revenus sans qu'on leur dise que le taux était variable. Ces subprimes ont été convertis en titres douteux, qu'on appelle aussi les obligations pourries. En spéculant sur ces obligations pourries, les banques se sont retrouvées à la tête de sommes fictives appelées actifs toxiques. Avec ces actifs toxiques, les banques avaient donc des capitaux artificiellement gonflés, les chiffres pipeaux. Quand ils ont vu ces chiffres pipeaux, les acteurs économiques, appelés aussi les têtes de con, ont réalisé la fragilité du secteur bancaire, ce qu'on appelle le « chier dans leur benne ». Le « chier dans leur benne » a paniqué les têtes de cons qui ont essayé de revendre le plus vite possible ces titres ou refiler cette merde. Les bourses, aussi appelées « ramassis de sang-couilles », dégringolent. Les têtes de cons chient dans leur benne, plus personne n'arrive à refiler sa merde, on décide alors d'en appeler au gouvernement, ce qu'on appelle aussi le « on a tout claqué le pognon, faut nous en redonner. Le gouvernement américain injecte 700 milliards de dollars qu'il emprunte à la Chine et aux Émirats arabes. Ce qu'on appelle aussi le « les bridés sont bien obligés de nous filer la thune parce que si on se pète la gueule, ils pourront plus nous fourguer leurs produits de merde ». Pareil pour les enturbanés, s'ils veulent continuer à nous vendre leur pétrole à la con, faut qu'on puisse encore acheter des bagnoles. Les bridés et les enturbanés filent la thune. Les têtes de con arrêtent de chier dans leur benne et les ramassis de sang couille ont le cul propre parce qu'il a été bien léché. Pendant ce temps-là, les boîtes se pètent la gueule, les gens n'achètent plus rien parce qu'ils ne peuvent plus ou parce qu'ils ne pourront plus, et ils se font virer ou ils vont se faire virer. Un bon gros bordel qui va tous nous foutre à la rue, à poil, ce qu'on appelle aussi une crise financière.
Marx et l'écologie, une polémique, une polémique, disons, entre les écolos et les marxistes. En quoi est-ce que Marx a un rôle là-dedans, dans cette polémique ?
Là aussi, on projette sur Marx. Je ne dis pas qu'il en est totalement innocent là-dessus. Je dis que le chapitre là-dessus, j'ai intitulé « Ni ange vert, ni démon productiviste ». Il n'est pas totalement innocent parce que c'est des gens qui sont confiants, qui ont devant eux une société extrêmement dynamique. On en a parlé, la première mondialisation, le second empire, c'est les transformations de Paris, c'est les expos universels, etc. Donc il y a une certaine confiance dans le progrès, pas totalement naïve et aveugle. Hein, ils disent, notamment à propos de l'agriculture et notamment de développement capitaliste de l'agriculture avec les engrais chimiques, ils sont parmi les premiers à donner l'alerte en disant attention à l'épuisement des sols, attention à la déforestation, une forêt ça prend des années et des années à être reconstituée. Il y a l'idée que le progrès peut avoir des effets contradictoires. Donc ça, incontestablement. Mais le gros problème, à mon avis, c'est est-ce que Marx et Engels, pour le coup, ont l'idée des effets de seuil, qui est un gros problème aujourd'hui de l'écologie. Est-ce qu'il y a des seuils qui, une fois franchis, deviennent irréversibles, donc des dégâts infligés à la planète qui sont irréparables. Finalement, leur adhésion à l'idée de progrès fait que ce n'est pas leur souci. Il y a quand même des traces de ça.
Ça n'a pas été le souci du grand monde jusqu'à la fin du XXe siècle.
C'est pour ça, c'est un reproche qui est aussi un peu anachronique à l'époque, pas grand monde, et le terme écologie, c'est intéressant, apparaît la même année que le Capital.
Ah oui.
Dans le vocabulaire. Mmh. C'est un botaniste allemand, Haeckel, pas Hegel, qui a forgé, d'après ce que disent les spécialistes, le terme écologie, mais il apparaît pour la première fois dans ces années-là aussi, où on commence avec Darwin à s'intéresser aux équilibres, aux transformations d'espèces, etc. Donc, il est contemporain de la naissance des balbutiements de l'écologie.
Je voudrais m'adresser à vous qui me regardez, vous qui doutez des OGM. Vous avez raison. Mais laissez-moi vous expliquer. Sur un champ comme celui-là, un champ où vous avez peut-être connu vos premiers émois amoureux, un champ qui appartient peut-être à un être cher, un champ où vous avez peut-être vu gambader un faon ou une biche heureuse, eh bien ce champ, grâce aux OGM, peut nourrir 50 000 petits Africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Vous ne laisserez pas des enfants mourir le ventre vide, n'est-ce pas? Regardez le flambé des prix, du blé et du riz, qui provoquent des émeutes de la faim partout dans le monde. Avec des OGM, terminez les émeutes de la faim. Terminez aussi le réchauffement de la planète, rien qu'en achetant des OGM. On pourrait stopper les guerres et faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où les gens en manquent cruellement, ou bien au contraire, faire apparaître le soleil là où il est trop rarement présent. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie. C'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec un grain de maïs OGM, on pourrait faire revivre votre petit château mort. Grâce aux OGM, vous deviendrez propriétaire de la maison de vos rêves avec piscine. Les enfants ne seront plus obligés de couper la viande et il y aura des frites. Alors, vous écoutez encore ces militants anti-OGM qui veulent vous voir malades et pauvres, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre, et qui, au fond d'eux, sont jaloux du bonheur que les OGM vous promettent.
Alors, il y a tout un passage du bouquin que vous consacrez à Dieu, et plutôt, plus exactement, à la mort de Dieu. En quoi est-ce que Marx s'intéresse à Dieu ? On l'a dit, Marx est mort, mais auparavant, on avait dit Dieu. Dieu est mort. Et ce que vous rappelez, c'est que, pour toute une série de philosophes, ce qui est intéressant, c'est pas que Dieu ait créé l'humanité, mais c'est que l'humanité ait créé Dieu.
Oui.
Ce qui est intéressant dans Dieu, c'est que c'est les hommes qui l'ont inventé. Et Il y a évidemment au 19e siècle, mais ce n'est pas la première fois, tout un courant de lutte contre la religion, d'athées qui veulent absolument. Des athées, d'athées, faites attention à la radio, des athées qui entendent en finir avec la religion, comme aujourd'hui. Ce courant existe toujours, bien évidemment. Mais ce que vous indiquez bien, c'est que Marx ne s'intéresse pas tellement à ce mouvement athéiste, disons, il s'intéresse aux causes de la religion, de la croyance et de l'opium du peuple, aux causes qui vont faire que les gens, notamment les gens de peu, les fameux prolétaires, vont se réfugier dans la religion comme dans un opium. Avec ceci, c'est que l'opium, eh bien, ça, à la fois, ça soulage et ça abrutit. Donc il n'y a pas une attaque de la religion elle-même, mais sur les causes du religieux, de l'aspiration religieuse chez les modestes, disons.
Ça, c'est parce qu'il considère, il le dit très tôt, dans un texte de 1843, donc un texte, on dirait, de jeunesse, il a 25 ans. Il commence, d'ailleurs, c'est la première phrase, je crois, « En Allemagne, la critique de la religion est faite ». Donc, ses prédécesseurs, notamment Feuerbach, qu'il estime beaucoup à l'époque, a fait un livre de critique du christianisme. Et donc, là, l'idée du renversement, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui, pour soulager ses peines, a imaginé Dieu. Bon, cette critique-là est faite, dit Marx, donc ça, n'y revenons pas, il considère que c'est un acquis. Et d'où la question intéressante maintenant, c'est pourquoi cette société a besoin de se fabriquer des croyances, et on ne peut pas combattre la religion, faire une croisade sur les idées. Bon, ça, c'est assez vain. Le vrai problème, c'est s'attaquer aux racines qui font qu'il y a un besoin de religiosité ou de religieux. Ce qui amène, effectivement, ce que vous dites, Marx n'est pas du tout dans les croisades de libre-pensée, rationaliste, positiviste, etc. Et il y a même des textes de Marx, et notamment d'Engels, un magnifique d'ailleurs, qu'on a republié dans les documents à propos de la Commune de Paris, où il dit, bon, déjà, militer pour l'athéisme, c'est accorder trop d'importance à Dieu. Et puis, de toute façon, il ne faut pas non plus créer une religion de la raison. Plus on va vouloir imposer une sorte de religiosité d'État rationnelle contre les autres religions, bon, on fabrique encore du religieux. Donc là-dessus, ce n'est pas des bouffeurs de curés, hein, ce n'est pas non plus des... Mais ce n'est pas leur problème principal, effectivement.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés, pends de nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
On continue avec Daniel Ben Saïd. Marx, mode d'emploi, évidemment avec une couverture rouge et un dessin de Sharp qui représente Marx en short, bien évidemment, qui en criant « Marx est mort, ah ah ah, les cons ». Autre chose concernant Marx, c'est Marx antisémite. Il y a le fameux texte « La question juive » et on accuse Marx d'antisémitisme. C'est faire peu de cas de Proudhon qui souhaitait la fermeture des synagogues et la déportation massive des Juifs vers l'Asie.
Oui.
Voilà. Mais ça, il faut bien resituer ses positionnements et cette histoire.
Alors d'abord, il y a un truc qui me paraît important, c'est que même vis-à-vis de Proudhon, effectivement a écrit là-dessus, il y a un anti-judaïsme populaire, hein, dont s'est nourri par la suite l'antisémitisme de Drummond, etc. Mais parler à propos de Proudhon ou de Marx d'antisémitisme est anachronique, parce que le terme est apparu en 1879 seulement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est apparu au moment où apparaissait la théorie des races. C'est la grande période de colonisation, Gobineau, c'est 1856, etc. Donc apparaît la théorie des races, et à ce moment-là naît, ou se greffe sur l'antijudaïsme religieux, qui en gros pour qui les juifs étaient ceux qui avaient vendu le Christ, ou etc. Bon, ça c'était une forme, mais c'est greffé à l'antisémitisme racial, là, qui considère le judaïsme non plus comme religion, mais comme race, avec les stéréotypes physiques, etc. etc. Donc Marx, antisémite, ça n'a pas de sens dans le contexte de l'époque, hein. Et par ailleurs, ça n'a pas tellement de sens non plus, puisque toute cette histoire, la polémique sur Marx antisémite, alors il y a des formules qui choquent aujourd'hui, parce qu'on les lit...
Avec les yeux d'aujourd'hui.
Les rapports des Juifs à l'argent, si on lit Balzac et la maison de Nucingen, si on lit Heine, qui lui-même était d'origine juive, etc. Mmh. Bon, on en trouverait des tonnes. C'est une banalité littéraire, l'idée du rapport du Juif à l'argent, qui renvoie à une réalité sociologique, pas de tous les Juifs, mais de la fonction usuraire dans les interstices de la société féodale, où les gens n'avaient pas le droit, justement, de faire de l'usure. Bon... Donc ça, c'est une donnée. Mais Marx, au contraire, l'objet polémique de son texte sur la question juive, c'est une polémique avec un de ses anciens amis, Bauer, qui dit, oui, pour que les Juifs aient accès aux droits civiques, donc qu'ils puissent, on ne dit pas voter à l'époque, mais avoir au droit accès aux emplois, etc., il faut qu'ils renoncent à leur religion pour devenir comme tout le monde. Et là, Marx est cohérent et dans la même idée critique, il dit non, ils ont droit à leur religion comme tout le monde. Et il faut privatiser la religion, mais pas l'abandonner. Donc, et là encore,
privatiser au sens d'en faire une affaire privée.
En faire une affaire privée. Oui. Donc, délimiter un espace public d'un espace privé. Mais on ne demande pas aux gens de renoncer à leur religion pour accéder à des emplois publics. Et il dit, ça ne résoudra pas le problème. Et il dit d'ailleurs, dans le pays qui est apparemment le plus démocratique à l'époque, les États-Unis, c'est le pays où les religions existent et ô combien, etc. Donc je crois que là, c'est vraiment un mauvais procès anachronique qui a été fait. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il a croisé Heinrich Graetz, qui est le pionnier de l'historiographie. Shlomo Sand en parle justement, qui a reconstitué une sorte d'histoire de la continuité des Juifs à travers le temps. Bon, ils ont pris leur bain à Carlsbad ensemble et Marx lui a offert le Capital, l'autre l'histoire du peuple juif. Bon, il était un peu excédé par le communautarisme des rabbins, mais ça ne l'a pas empêché de rédiger leur pétition pour les droits civiques à leur demande.
Autre chose qu'il reprochait à Marx, c'est l'éloge de la dictature du prolétariat. Dans leur analyse de la Commune de Paris, Marx et Engels évoquent la dictature du prolétariat. Ça, avec, on parlait de l'antisémitisme, c'est une chose qui revient régulièrement. Marx est le père de la dictature du prolétariat. Vrai ou faux ?
Ah ben, littéralement, disons, du point de vue des textes, c'est absolument vrai. Il le dit dans une lettre. Il dit, moi, j'ai pas inventé la lutte de classe, ou je l'ai pas découverte, exactement, il n'y a pas d'inventeur. Mais il dit, bon, d'autres en ont parlé avant moi. En revanche, une des choses originales que j'ai apportées, c'est l'idée que pour sortir de ce merdier capitaliste, il faudra en passer par une dictature du prolétariat. Alors là, bon, sans faire de l'érudition sur les termes et l'étymologie, mais il faut quand même rappeler quel est le problème qui est posé à l'époque. Les gens raisonnent à partir de la Révolution française. Et leur problème, ce qu'a dit Babeuf aussi, c'est comment on peut devenir un peuple épanoui alors qu'ils ont fait de nous des barbares. Babeuf dit ça à propos de l'écrasement de la Vendée et ce qu'il appelle le populicide de Vendée, hein, quand même, par les armées républicaines. Donc comment des êtres qui ont subi l'oppression, la domination, qui ont été mutilés physiquement, abrutis, etc., peuvent se transfigurer ? Bon, ça, c'était le problème légué par la Révolution française. Et la plupart des révolutions des années 1830 tournent autour de cette idée-là. Comment on peut passer de cette situation de servitude qui a fait de nous des barbares, à des êtres épanouis, et porteurs d'une culture nouvelle, etc. La plupart du temps, ils raisonnaient en termes, il faudra, comme transition, une dictature éclairée, un triumvirat, ce qui a eu lieu de la Révolution belge en 1830. Donc on cherche quelques hommes vertueux, c'était aussi l'idée du comité de salut public, qui sont capables de faire passer le pont. Et du coup, Marx reprend le terme de dictature. Mais il le retourne, quand il dit dictature du prolétariat, évidemment, qui n'est pas lisible aujourd'hui, c'est pour la première fois Dictature, oui, comme pouvoir d'exception, je vais en dire un mot, mais dictature de la majorité, non pas de la minorité. Et ça, pour l'époque, c'est un renversement total de perspective. C'est pas, justement, l'individu éclairé qui va assurer la bonne société, mais c'est une invention d'en bas. On en revient à ce thème conducteur. En plus, ce qu'il faut préciser, c'est que le terme dictature à l'époque n'est pas péjoratif. Ce qui est péjoratif, c'est la tyrannie dans le vocabulaire du XVIIIe, XIXe siècle. Le pouvoir arbitraire, c'est la tyrannie. On peut lire un texte de Rousseau, « Abat les tyrans », etc. La tyrannie est le pouvoir arbitraire, et le pouvoir arbitraire d'un seul, en général, ou de quelques-uns. La dictature, c'est des gens qui sont pétris de culture latine, de l'histoire romaine, hein, l'histoire des Romains de Montesquieu, etc. Pour eux, la dictature, c'est un pouvoir d'exception, oui, en état de guerre ou de guerre civile, mais un pouvoir qui est très réglementé, qui n'est pas du tout arbitraire. C'est un mandat donné par le Sénat romain au dictateur pour conduire une guerre, qui est un mandat donné, révocable et limité dans le temps. Donc, à partir du moment où Marx pense que la révolution, c'est une discontinuité dans le droit, hein, c'est un droit qui s'oppose à un autre droit, c'est pas des réformes parlementaires, d'autant plus qu'il y a peu de parlements à l'époque. Donc, il dit, le passage d'un droit à un autre, à un moment donné, c'est la force qui fonde le droit. Mais c'est la force du nombre. Et on appelle ça dictature du prolétariat. Donc, c'est un pouvoir d'exception, dictature, de la majorité, pendant une période limitée, à l'image de ce qu'était la dictature romaine. Alors aujourd'hui, je dois ajouter qu'évidemment, le mot est devenu imprononçable après Pinochet, Franco, les régimes du XXe siècle. Donc, non, ça, je pense que c'est intéressant comme débat historique, mais il faut retenir le problème qui était posé à travers ça. Comment on passe d'un type de société à une autre? Par quel mouvement? Après, je crois que les mots, malheureusement, ont une histoire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis innocents du XXe siècle.
Rémi se pose la même question que de nombreux épargnants. Il ne s'est jamais intéressé à la bourse. Il veut savoir si, compte tenu des niveaux très bas actuellement du CAC 40, ce type de placement redevient attractif. Quels conseils pourriez-vous lui donner, Patrick ?
Bien, tout d'abord, Rémi a raison de s'intéresser à la bourse. C'est sur le long terme le placement qui rapporte le plus. La bourse obéit à des cycles haussiers ou baissiers. Et le moment où l'on investit sur le marché des actions est très important. Nous sommes donc dans un cycle baissier. L'idéal donc pour se constituer un portefeuille. Avec cet inconnu, personne ne sait quand les marchés vont monter. On sait simplement aujourd'hui qu'ils sont très volatiles. Donc le climat est plutôt spéculatif.
Alors quel conseil donner à Rémi ?
Je suis pour la liberté des capitaux. Mon argent doit circuler si je veux gagner le gros lot. Les entreprises sont ligotées par des lois socio-écolo. On me l'a dit à la télé, on me l'a dit dans le Figaro. Et chez Jean-Pierre Pernaut. Et ma liberté à moi passe pas par celle des clodos. Pour la concurrence, au sport, à l'école, ma devise, chacun son niveau et sa chance, chacun pour soi et ses devises. Y'a qu'on s'entretuant qu'on avance, c'est pas l'amour qui réalise des gros chiffres pour la croissance. Moi, toute ma vie est en crise, si le CAC 40 s'enlise. C'est pas ma faute si les Éthiopiens ont pas l'esprit d'entreprise. Les assistés, les SDF et les chômeurs, encouragés à rien glander, faut plus d'aide, plus de resto du cœur, d'accord. Il y en a qui vont crever, mais c'est parce que c'est des losers, et puis faudrait plutôt aider les entreprises qui, sans un pleur, travaillent et gèrent notre bonheur. Fallait acheter des stock options, faites pas chier avec votre malheur. Je n'aime pas les luttes utopiques. La droite, la gauche, c'est dépassé. C'est dans mes temps préhistoriques que les patrons et les ouvriers se battaient comme des hystériques. Car maintenant, c'est terminé. Grâce aux grandes lois du marché, on les appelle entrepreneurs et nous voilà réconciliés. Faut tout niquer, aller de l'avant. Pour être un héros, faut gagner. Les vrais salauds, c'est les perdants. Ce qui compte, c'est y arriver. Et peu importe comment, c'est indécent et déplacé de savoir d'où vient son argent. Et puis la justice, c'est chiant. Si les nazis avaient gagné, je serais un fervent partisan. L'État, car il enferme la liberté. Moi, je suis contre les lois qui empêchent mes actions montées. Les politiques ne sont pas légitimes pour décider. Le MEDEF réunit les voix des vrais winners à écouter. L'élite de l'humanité. Ils ne demandent que le bonheur de ceux qui les ont fait gagner. Et les fonds de pension Enron, et puis les Man Brothers aussi. J'ai perdu des sommes énormes, mais je mangerai des pâtes aujourd'hui, car l'élite parmi les hommes m'a dit d'acheter du Vivendi. Ça va monter dès mardi. Vive les petits porteurs, le marché et la riscophilie. Vive les petits porteurs, le marché et la riscophilie. Je suis un libertaire, je suis un anticonformiste, je suis un petit actionnaire. Je suis un petit actionnaire. Je suis un petit actionnaire.
Plus encadré, comme la bourse est un marché d'anticipation, on doit le répéter à chaque fois. La confiance va revenir, la sortie de la récession sur la bonne pente. Et donc, les marchés seront à nouveau orientés vers la hausse, sauf bien évidemment grosse catastrophe géopolitique.
On continue avec Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi aux éditions Zone. Les erreurs de Marx, sur quel point il s'est trompé ?
La plus grosse erreur, sûrement, c'est de un optimisme...
Sur la fin du capitalisme par lui-même.
Sur la fin du... Oui. Oui, c'est un des points ambigus, c'est qu'il y a une contradiction non résolue finalement chez Marx. Hein. Il y aurait d'autres points discutables sur l'écologie, sur la famille, il n'y a pas de génie absolu. C'est déjà impressionnant comme œuvre, mais je crois que le plus important par rapport à son propos, c'est qu'il y avait une contradiction. Comment décrire les conditions d'abrutissement, de travail de ces ouvriers, les rapports de fabrique, etc. Et penser qu'en même temps, ces mêmes êtres soumis à une oppression, avec des horaires de travail épouvantables, etc., peuvent être porteurs d'une société nouvelle. Alors là, chez Marx, il y a un peu ce que j'appelle un pari sociologique, c'est l'idée que le capitalisme crée une industrie, des entreprises de plus en plus concentrées, de plus en plus grosses, un prolétariat de plus en plus massif et concentré. Plus il est concentré, plus il s'organise. Plus il s'organise, plus il prend conscience de ses intérêts. Et donc, il y a quand même l'idée d'une sorte de mouvement de l'histoire dont l'agonie du capitalisme est finalement en vue, presque par des lois naturelles. Il est tenté par cette idée de loi naturelle. En même temps, elle est contradictoire avec l'idée qu'il faut lutter. Donc, c'est pas si naturel que ça. D'accord, il va crever de sa propre mort, mais enfin, il faut quand même l'aider un peu. Bon, il va au-delà de son temps, mais il pense aussi avec son temps et dans les limites de son temps. Il voit le colonialisme en Algérie, mais Marx ne peut pas penser l'impérialisme, c'est pas par hasard que les grands débats sur l'impérialisme moderne, c'est le début des années 1910, etc. Le Marx, il voit une colonisation assez classique sous ses yeux. Donc, deux des livres initialement annoncés dans le projet du Capital, qui étaient en 6 livres à l'origine, alors il y en a 3 ou 3,5 de publiés, il y avait un livre sur l'État, et un livre sur le marché mondial. Alors, le marché mondial, ça aurait dû traiter de l'impérialisme, de l'échange inégal. Il l'amorce un petit peu, hein, des phénomènes migratoires, etc. Donc, ça, il n'y a pas. Là, c'est un défaut par absence, disons, plus que par erreur. Et puis, le gros problème, c'est, à mon avis, hein, c'est qu'il a, à un moment donné, ébauché une réflexion sur le phénomène bureaucratique. Mais c'est dans des textes de jeunesse, mais c'est devenu une question majeure du XXe siècle, la bureaucratie. Pas seulement la bureaucratie qu'on imagine soviétique ou chinoise, etc., mais la bureaucratisation des sociétés et à leur complexité dans les appareils d'État, les appareils administratifs. La bureaucratie, c'est dans les syndicats, dans les ONG. Donc le phénomène bureaucratique est un phénomène sociologique des sociétés contemporaines majeures que d'autres après Marx, Max Weber, d'autres, Bourdieu, ont contribué à penser. Mais ça, chez Marx, il y a à peine, en quelques pages, qui sont très intéressantes, l'idée que la bureaucratie, c'est une forme de survivance, finalement, d'un esprit de corps qui rappelle l'ancien régime dans les sociétés modernes. Avec un recrutement par le rite initiatique des concours, il y a cette idée finalement de la religiosité de l'État bureaucratique qui est présent, mais dans des textes de jeunesse, mais qui n'est pas poursuivi après. Peut-être que là, l'absence du livre sur l'État aurait poussé sûrement Marx à peut-être pas anticiper, parce que l'explosion bureaucratique, elle est au XXe siècle, surtout, là, on change de dimension, mais à s'intéresser beaucoup plus au phénomène, qui est un phénomène très important.
Alors, on a commencé cette discussion en évoquant tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent à Marx. On a cité Attali, qui a écrit un bouquin sur Marx il y a déjà quelques années, je crois. Hein. Enfin, on voit cet engouement, cet intérêt pour Marx. Il y a quand même beaucoup d'héritiers, hein, tout d'un coup, qui sortent ces temps-ci de l'ombre.
Alors, du part, bon, il y a les usurpateurs et il y a les héritiers. Je ferai une différence parce que, pour moi, faire de Marx ce que fait Attali, hein, il lui rend un hommage, hein, ouais, quand même, c'est un type très intelligent, un économiste incontournable, et autre chose, mais enfin, à condition qu'il ne fasse pas trop de politique, quoi, en l'amputant de sa dimension subversive. Donc, il faudrait faire la part des choses entre ce qui sont des lectures carrément biaisées ou des incompréhensions ou des lectures ignorantes de Marx. Il y en a beaucoup. Malheureusement. Et après, alors, il se trouve que la collection, je crois que c'est le début d'une collection, s'appelle Marx Mode d'emploi. Mais c'est un peu trompeur, parce que finalement, il n'y a pas de mode d'emploi. J'essaie de dire ce qui réellement est un contresens, mais après, c'est un héritage qui, comme le disait fort bien Derrida, l'héritage est ce qu'en font les héritiers. Et justement, il y a une pluralité de lectures et d'interprétations possibles, ce qui est le propre de tous les grands auteurs et les grands textes. Si on peut encore débattre longuement des interprétations du Panquet de Platon ou de la République de Platon, etc., a fortiori de Marx, qui est un auteur contemporain. Donc, si marxisme il y a, il faudrait le mettre au pluriel, que 1000 marxismes fleurissent. Donc, c'est une interprétation ouverte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'héritiers, il y a de multiples manières d'hériter. Et je crois que c'est non seulement ce n'est pas un inconvénient, mais c'est plutôt la mise à l'épreuve et la preuve de la vitalité d'une pensée.
C'était un entretien avec Daniel Ben Saïd, diffusé pour la première fois le 20 mai 2009. Son livre « Marx, mode d'emploi » a été publié par les éditions Zone en avril 2009. Et pour retrouver les mots de Daniel Ben Saïd, retrouvez-le dans « Tout est encore possible », une série d'entretiens avec Fred Hilgemann, paru à la Fabrique en septembre 2010. Enfin, un conseil de la barre, le film Cheminot est sorti en salle hier mercredi 17 novembre, de triage en atelier, de guichet en cabine de conduite. Les documentaristes Luc Joulet et Sébastien Jousse ont mené une enquête cinématographique au cœur de la SNCF. Plus d'informations sur www.cheminot-lefilm.fr. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Anne-Charlotte Guilhem. À la réalisation, Coy Nguyen et Franck Adhérer. Assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Marina Touyez. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis est le 01 56 40 37 37.
France Inter présente l'intégrale de Des Proches en coffret 5 DVD. Corbin News, Cyclopède, des documentaires, des spectacles et le texte de One Man Show numéro 3.
C'est quand même vrai que je suis pas n'importe qui. Hein.
Des Proches, en interview, sur scène, en musique, raconté par ses proches.
Vous savez ce que vous êtes tous là, hein ? Vous êtes des voyeurs. Et des voyeurs qui payent pour voir un exhibitionniste, ben je vous le dis comme je le pense, c'est petit. Hein.
L'intégrale de Des Proches, également disponible en DVD unitaire, un coffret France Inter.
Ah oui.
Votez pour la personnalité culturelle de l'année 2010. Rendez-vous du 15 au 28 novembre sur franceinter.com et choisissez parmi les 8 nominés qui sera la personnalité culturelle de l'année 2010. Remise du prix au lauréat le 7 décembre à la maison de Radio France.
La personnalité culturelle de l'année avec Cultura. 48 magasins et cultura.com. Livres, disques, vidéos, multimédia, loisirs créatifs, beaux-arts.
J'étais belle avant, la plus belle des télévisions. Si vous saviez comment me regardait. Et voilà qu'on me remplace par une de ces jeunes télés, plates comme une limande. Allez, laissez donc ces jeunes livreurs qui vous la portent me ramener au magasin. Qui sait si, avant de me recycler, ils ne m'allumeront pas pour une dernière séance et...
Ensemble, collectons pour ne pas polluer.
Tous les points de collecte sur www.collectons.org. C'était un message d'Écosystème et du ministère du Développement Durable.
France Inter présente William Scheller. Piano en ville.
Je passe au milieu de vous dans un jardin andalou.
Du 29 novembre au 10 décembre, 7 récitals exceptionnels, 7 lieux mythiques parisiens. Le Palace, Bobino, La Cigale, la Salle Gaveau, mais aussi le Salon Opéra du Grand Hôtel, l'Hôtel Crillon et le Musée Grévin accueilleront William Scheller et son piano.
C'est midi qui sort.
Retrouvez William Scheller dans le programme musical de France Inter.
Environnement, climat, biodiversité, catastrophe. En partenariat avec le hors-série du Monde, quel bilan pour la planète un an après l'échec du sommet de Copenhague ? Pour intervenir, 01 45 24 7000 dès 17h ou franceinter.com.
Le téléphone sonne, Alain Bédoué, ce soir à 19h20.
Très bon après-midi, dans quelques minutes, Frédéric Laudéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour. Au Nigeria, l'armée a présenté à la presse les 19 otages libérés hier avant de les confier à leurs employeurs. Ils étaient détenus dans le camp d'un groupe rebelle dans le delta du Niger. Parmi eux, deux Français enlevés la semaine dernière sur une plateforme pétrolière. Les otages semblent en bonne santé. Ils n'ont pas subi de violence mais souffert du manque d'eau et de nourriture. Le ministre français de la Défense, Alain Juppé, a remercié vivement les autorités et l'armée nigériane. L'enquête sur l'attentat de Karachi en 2002 au Pakistan se focalise sur le versement de commissions et des soupçons de rétro-commissions. Après les déclarations de l'ancien ministre de la Défense Charles Millon au juge Van Ruynbeck qui confirme l'existence de ces commissions et leur arrêt après l'élection de Jacques Chirac, des familles de victimes de l'attentat réclament les auditions comme témoins de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et de son ancien secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin. Deux jeunes garçons de 19 ans sont à l'origine de l'incendie d'un foyer de travailleurs immigrés à Dijon, dans lequel 7 personnes ont trouvé la mort. Les deux cousins ont été mis en examen. Ils ont reconnu les faits, mais se rejettent mutuellement la responsabilité d'avoir mis le feu aux poubelles du foyer. Ce sont eux qui avaient ensuite appelé les pompiers. Un surveillant de prison a-t-il le droit de s'exprimer librement ? C'est la question posée cet après-midi au tribunal administratif de Toulouse. Un surveillant avait écopé de sanctions après avoir tenu des propos critiques sur le système carcéral. À Toulouse, Frédéric Bourgade.
La prison tue plus que la guillotinière, c'est pour ce propos et d'autres encore que le surveillant a été sanctionné d'un blâme. Pour son employeur, le ministère de la Justice, il a dénigré sa corporation et surtout, il a outrepassé son obligation d'un droit de réserve. Mais pour Éric Carré, le surveillant sanctionné, il s'est tout simplement comporté en citoyen.
En tant que citoyen, oui, bien sûr. Bah, on est quand même les mieux placés sur le terrain pour voir ce qui se passe, quoi. Parce que la justice, c'est quand même pour moi une source de cohésion de la population. Je dirais pas un motif de haine de l'uniforme et de voilà.
Le surveillant parlait également des matelas jetés à terre, du surpeuplement de la prison, des tensions entre détenus et gardiens. De simples constats, affirme son avocat, maître Pascal Nakache, qui a demandé la levée du blâme.
Non, il n'a pas outrepassé ses droits. Au contraire, je pense qu'il a rendu honneur à son corps et à l'administration pénitentiaire en disant que la situation dont il est le témoin au jour le jour est intolérable. L'administration pénitentiaire et en particulier les surveillants de l'administration pénitentiaire sont plutôt des victimes de cette situation qu'ils n'en sont les responsables. C'est précisément cette confusion qui est à l'origine du fait qu'elle se perpétue.
Le délibéré sera rendu le 20 décembre prochain. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Jean-Claude Trichet exprime une inquiétude profonde pour la zone euro. Depuis plusieurs jours, le patron de la Banque Centrale Européenne s'active avec le Fonds Monétaire International pour convaincre l'Irlande d'accepter une aide financière et surmonter sa crise budgétaire. L'inquiétude des marchés menace la stabilité de l'ensemble de la zone euro. Des experts de l'Europe et du FMI sont à Dublin aujourd'hui pour inspecter les banques irlandaises. Les ennuis continuent pour Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks, spécialisé dans la publication de documents confidentiels, notamment sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan. La justice suédoise ordonne un mandat d'arrêt international contre lui pour viol et agression sexuelle. Il avait pourtant été blanchi en août dans cette affaire. Julian Assange se trouve actuellement en Grande-Bretagne. Un avocat israélien veut lever la censure qui pèse sur les œuvres de Wagner dans son pays. Il vient de fonder la société wagnérienne israélienne. Le compositeur allemand Richard Wagner est l'un des plus importants du 19e siècle, mais aussi un antisémite notoire dont la musique était adulée par Hitler. Et de ce fait, les orchestres israéliens ne jouent pas ses œuvres, même s'il n'existe pas d'interdiction officielle de le faire. Pour Jonathan Livni, lui-même fils de déporté, un opéra qui refuse de jouer Wagner et se contente de Verdi ne peut que s'appauvrir. Le débat est lancé.
Demain, dans Service Public.
Tous les vendredis, Service Public a sa façon bien personnelle de feuilleter l'actualité. Alors je vous attends avec les reporters et les journalistes de l'équipe et nos invités. Vos questions et vos réactions sont les bienvenues sur franceinter.com.
Service Public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter et la musique de Wagner sont tout au programme de Frédéric Ledéon. Bonjour.
Pas aujourd'hui, une prochaine fois. Bonjour Corinne.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, nous allons poursuivre aujourd'hui la lecture de ce beau livre-disque, La dynastie des Borgia. C'est Jordi Savall qui est le maître d'œuvre et c'est publié chez Alia Vox. Alors c'est un livre historique, publié en 7 langues s'il vous plaît. Et puis il y a pas mal d'illustrations superbes, il y a un texte historique et on sait que cette famille a beaucoup fait parler d'elle. Un tel enseigne d'ailleurs que Canal+ est en train de tourner une série sur les Borgia qui va paraître bientôt. Et me dit-on d'autres personnes, enfin notamment dans le grand cinéma, on parle même de Spielberg, sont intéressés par des films sur les Borgia. Donc ils sont en pleine renaissance, si j'ose dire, et puisque c'est leur époque. Et je vous propose d'entendre, par exemple, une petite pièce anonyme qui a été écrite en 1474 pour la naissance, en tout cas au moment de la naissance, de César Borgia. Thank you. anonyme mais convaincant, c'est une petite pièce, El Cervel Mifa, à l'époque, je ne sais pas si c'est pour exactement, mais en tout cas à l'époque de la naissance de César Borgia, fameux dans la dynastie bien sûr, interprété par l'ensemble Hesperion 21. Et puis voici maintenant, là on connaît l'auteur de Carlo Verardi, Vive le grand roi Don Fernando, c'était pour la fin du royaume de Grenade en janvier 1492, on allait entre guillemets découvrir l'Amérique peu de temps après. Dans la même année, en tout cas, Christophe Colomb. Et donc, les paroles sont triomphantes. Vive le grand roi Ferdinand avec la reine Doña Isabel. Vive l'Espagne et la Castille, triomphante, pleine de gloire. La ville mahométane de la très puissante Grenade s'est séparée et libérée de la fausse foi païenne par le courage et la main armée de Ferdinand et Isabel. Vive l'Espagne !